Donc, vous le savez, le fil rouge, le verset biblique, fil rouge de l'année, c'est « Sois bénédiction ». Sois bénédiction. Donc, toute cette année, on a déjà commencé à partager, à enseigner sur ce sujet-là. J'ai particulièrement apporté des enseignements sur le fait de comment nous pouvons, à titre personnel et à titre communautaire, être une bénédiction pour Dieu. Aujourd'hui, le thème, c'est aussi, parce que l'un va aussi avec l'autre, c'est d'être une bénédiction pour celui que l'on côtoie jour après jour, comment être bénédiction pour chaque personne, comment être une bénédiction pour la société dans laquelle nous sommes. Voilà, sois bénédiction pour la société. Dans une société où il y a de plus en plus de repli sur soi, les Écritures bibliques nous invitent à vivre parfois à contre-courant. Là, je prends ce texte de l'Épître aux Romains, chapitre 12. « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, mais adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de discerner ce que Dieu veut de vous, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Ne vous coulez pas dans le moule de ce qui se vit dans la société, comme si vous étiez, on dit, des moutons de Panurge. Ayez du caractère, ayons du caractère pour vivre ce que le Seigneur nous appelle à vivre et pas forcément à ce à quoi la société nous entraîne. Il y a des bonnes choses dans la société, il y en a de moins bonnes, et parmi les moins bonnes, il y a le repli sur soi, parmi lesquelles il y a l'égoïsme. Donc ce texte nous dit, mais adopter une attitude intérieure différente. S'il y a des personnes autour de vous qui sont égoïstes, le Seigneur vous dit, toi ne le sois pas. Sois une bénédiction. Même si la personne que tu côtoies t'agace, parce que ça arrive, hein, je pense que j'en agace parfois aussi. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Est-ce la pratique religieuse? On s'aperçoit que pas vraiment, parce qu'il y a des textes dans le premier, l'Ancien Testament, qui sont assez rudes, où Dieu dit « j'en ai marre de vos pratiques religieuses ». Parce qu'elles ne sont que religieuses. Et il donne une série, alors on ne va pas tout voir, hein, mais je vous ai préparé quelques versets où on sait ce que Dieu veut. Dans le livre de Michée, ce que ton Seigneur vous demande, d'ailleurs cette phrase est bizarrement faite, hein, ce que ton Seigneur te demande, vous demande, c'est de respecter le droit des autres. C'est d'aimer agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que lui, votre Dieu, vous indique. Dans un autre livre du prophète Zacharie, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre et ne méditez pas l'un contre l'autre. Le mal dans votre cœur. Et enfin, on connaît peut-être un peu plus cette parole de l'apôtre Paul qui, dans un texte beaucoup plus long, dit « Si je donnais aux pauvres tout ce que je possède, si je n'aime pas les autres, cela n'a aucune valeur. » Autrement dit, le Seigneur nous dit « Sois une bénédiction en adoptant ce type de vie, ce style de vie, puisqu'il ne s'agit pas seulement, de répondre à des commandements, mais c'est de vivre avec un style de vie qui soit joyeux et qui soit enthousiaste, qui soit vrai et authentique. Vrai et authentique. Dans la bénédiction que nous apportons aux autres, ça ne sert à rien de jouer un rôle. Ça ne sert à rien de jouer les chrétiens. Soyons des hommes et des femmes avec des valeurs qui soient pas seulement des valeurs religieuses, mais des valeurs de ce qu'il nous dit de faire et de vivre. Les pauvres, ce n'est pas ceux qui n'ont pas de sous. C'est ceux qui, et Jésus le dira, heureux les pauvres, mais voilà, c'est pas ceux qui n'ont pas le sou, c'est ceux qui se reconnaissent être pauvres et qui reconnaissent avoir des besoins. Jésus, d'ailleurs, dira, aimez-vous les uns les autres. Tiens, à ce propos, cette semaine, j'ai eu dans mon bureau... J'allais dire un jeune, oui, 40, 45 ans, dépressif depuis longtemps, parce que abandonné par ses parents. Et je fais une parenthèse, hein, mais cet homme trouve qu'il n'a pas la légitimité pour vivre sur Terre. Il cherche de la sécurité, il a peur que sa femme et ses gamins l'abandonnent. C'est un des pauvres dont parle Jésus qui a besoin de recevoir une guérison intérieure émotionnelle. J'ai rien contre la psychologie, la psychiatrie, etc., mais il arrive à un moment où il est désemparé parce que ce n'est pas les médocs qui sont en train de l'aider. Et donc de lui dire, mais écoute, moi j'ai rien à te proposer, sauf le fait que Jésus vient et dit, je veux réparer ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui émotionnellement ont été violentés, ceux qui sont cassés par les circonstances de la vie. Je rencontre dans mon bureau des personnes qui ont été violées. On ne peut pas seulement dire tu pardonnes et puis tout va bien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a besoin d'une guérison émotionnelle. Je suis sûr que Jésus accorde cette guérison émotionnelle pour autant qu'on vienne lui demander et qu'on chemine avec lui et nous avec les personnes. Mais lorsque j'étais aumônier à la prison, il y a un des détenus qui dit « Au secours, Bernard, je suis pédophile, je ne sais pas pourquoi, donne-moi un coup de main. » On ne va pas le rejeter parce qu'il est pédophile, on va lui donner un coup de main pour voir comment, pourquoi ça se passe. « Je ne suis pas psy, » j'ai dit au gars, « je ne suis pas psy, je suis pasteur. » « Mais ce que je peux faire, c'est prier pour toi et t'accompagner. » Il y a, me semble-t-il, en tout cas quand je préparais ces quelques mots, j'avais l'impression que au milieu de nous, il y avait quelqu'un qui était cassé, froissé par la vie, froissé par des choses vécues. Et Jésus est en train de te dire au travers de cela, je veux guérir ton cœur qui a été brisé, bousculé, froissé. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc la question qui se pose, c'est comment toi, comment moi, comment nous sommes ou pouvons être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. C'est ça la question. C'est pas je veux pour moi, c'est comment toi tu donnes. Comment tu vas vers l'autre. Ça se passe déjà dans la sphère familiale. Comment est-ce qu'on est une bénédiction dans la famille? Tiens, je vous donne un scoop. Cette semaine, on a fêté nos 48 ans de mariage. Alors moi, je voudrais dire aux jeunes, écoutez, sans culpabiliser qui que ce soit, j'ai envie de vous dire que le mariage, c'est chouette. Amen. Non seulement ça fait 48 ans qu'on est mariés, mais on s'aime toujours, quoi. Elle est bien, la dame, là. C'est possible. Je voudrais que ma parole... notre exemple aujourd'hui soit une bénédiction pour vous, parce que je peux comprendre que dans une société comme la nôtre, on puisse dire, ben non, je me marie, mais ça ira jamais jusqu'au bout. Ben si, voilà, j'atteste et je vous dis, à vous les jeunes, que c'est possible. Donc dans la sphère familiale, soyons une bénédiction. J'espère, je pense qu'on l'a été pour nos 4 enfants et que nous continuons à l'être pour nos 9 petits-enfants. Et je vous dis, tiens, puisque je parle aux jeunes, je vous dis, les jeunes, prenez soin de vos parents, quoi. Soyez une bénédiction pour les parents. Généralement, les parents, ils donnent. Mais qu'est-ce que vous donnez, vous, à vos parents? Donnez à vos parents, parce que c'est juste qu'il en soit ainsi. À l'armée, dans le temps, on disait « engagez-vous ». Dans l'église, on peut dire « engagez-vous ». Et là, je vous engage, en tout cas, à vous engager à être une bénédiction. En fait, être une bénédiction pour les autres, c'est quelque chose d'intentionnel. On décide d'être une bénédiction pour les autres. Avec, je le disais tout à l'heure, une foi simple mais authentique, quelque chose de vrai. On n'est pas là pour faire du prosélytisme, on est là pour apporter l'amour que Dieu a mis dans notre cœur et dire qu'il est possible de vivre autre chose que ce que nous propose. Agissez par la prière, mais aussi par les actes, l'un et l'autre. Et non pas l'un ou l'autre. Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul nous dit, nous sommes l'ouvrage, le vrai terme c'est le poème, nous sommes l'ouvrage de Dieu, il a fait de nous ce que nous sommes, il nous a donné une vie nouvelle venant de Jésus-Christ, et depuis très longtemps, il a préparé des œuvres ou des actions bonnes afin que nous puissions les pratiquer. Un jour, j'étais dans le sud de la France et il y a quelqu'un qui, sachant que j'étais aumônier à la prison, m'a dit « Bernard, je pense que tu vas être amené à dire quelque chose au ministère de la Justice. » Alors, je lui ai répondu « Écoute, moi, je suis un petit pasteur d'une petite église. » Dans une prison, dans une ville que presque personne ne connaît, parce que quand même pas beaucoup de gens qui connaissent Angers, quoi. Mais un peu plus maintenant, grâce au SCO qui était en première, pendant un temps, quoi. Et donc j'ai oublié, j'ai dit, bon, il dit n'importe quoi, le gars. Et puis, des années après, donc j'avais oublié, et je ne vais pas faire trop long, mais à la prison, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Gérard, qui était en train de mourir du sida. Et donc, avec mon épouse et nos trois aînés, nous avions décidé de faire une demande pour que cet homme puisse sortir de la prison pour pouvoir mourir chez nous à la maison. Et le ministère de la Justice m'a répondu des mois après, quand je dis des mois, c'est 7 mois après, pour me dire, ben non, parce qu'il n'existe pas de loi, seule une grâce présidentielle peut le sortir. Donc nous avons fait une demande de grâce présidentielle. On n'a pas cherché du tout à ce que ce soit médiatisé, mais ça l'a été. Ce Gérard a pu sortir et venir chez nous, alors qu'il avait encore 8 ou 9 ans à faire. C'était un braqueur de banque. Voilà. Depuis 14 ans, il faisait prison et sans arrêt. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que nous n'avons pas cherché, nous, à être médiatisés, etc. D'autres l'ont fait pour nous. Et ça a permis, si on peut dire ça comme ça, que 60 à 80 députés disent, mais de tous bords politiques, mais le pasteur de Lépine a raison, c'est indigne de laisser mourir quelqu'un à la prison. Faisons une loi pour permettre aux personnes de sortir. Et c'est ce qui s'est fait. Une loi, à partir de là, à partir de cet épisode, on va dire, de ce vécu, voilà, il y a une loi aujourd'hui qui permet aux personnes détenues en fin de vie de pouvoir sortir au lieu de mourir. En fait, on a, j'allais dire pour nous, c'est pas un sujet de gloire. D'ailleurs, la loi, elle porte même pas notre nom, mais voilà, c'est bon. J'allais dire, c'est pas le sujet, on s'en fout un peu, pourvu que les personnes qui sont en fin de vie, emprisonnées, puissent sortir. Ce que je veux dire par là, c'est que, sans le chercher, faisant parler notre indignation, parce qu'on trouvait que c'était quand même pas juste et pas normal que quelqu'un, quoi qu'il ait fait, meure à la prison de maladie, alors notre indignité et notre cœur ont fait que, encore aujourd'hui, certains détenus sont au bénéfice de cette bénédiction, on va dire. Ça me paraissait impensable. D'ailleurs, je n'avais pas cru le gars. Mais Dieu l'a fait parce qu'il avait préparé des bonnes actions d'avance pour que je puisse entrer dans ce que lui, il avait prévu. Même si moi, je disais, bon, c'est n'importe quoi. Comment sommes-nous? Comment es-tu en bénédiction? Bon, je parlais de l'Ukraine tout à l'heure, du Togo et de l'orphelinat, mais plus près de chez nous. Comment sommes-nous une bénédiction pour la personne qui habite à côté de chez nous? Comment être une bénédiction à la fac? Comment être une bénédiction dans le milieu professionnel? C'est, je disais tout à l'heure, quelque chose d'intentionnel. Seigneur, fais de moi, de nous, des bénédictions. Église protestante du Colombier, comment tu es en bénédiction dans la ville dans laquelle tu es? Est-ce que tu vis ta vie religieuse rien que pour toi, avec nombrilisme? Ou est-ce que tu dis, mais nous sommes là pour bénir la ville et le département? Et nous voulons le faire au travers de la prière. Ça, on sait faire. Un jour, je descendais des marches du tribunal. J'avais été au vœu. Et puis, devant moi, il y avait un de nos maires d'Angers qui est décédé depuis. Et puis, je lui dis, « Ah, monsieur le maire, bonne année !» Et puis, de loin, si je peux me permettre, que Dieu vous bénisse. Ah, il s'est retourné avec son doigt pointé sur moi. Monsieur le pasteur, si vous me le dites pas, personne d'autre me le dira. Il attendait ça de moi. ça a permis une relation au point que après on s'est tutoyé, quoi. Des fois, nous n'osons pas, on se restreint, mais dans ce cas-là, on restreint aussi la bénédiction. Comment es-tu une bénédiction pour ceux qui t'entourent? Église protestante du Colombier, comment es-tu concrètement une bénédiction pour la ville ou le département dans lequel tu es? À chacun de nous de trouver, parce que je n'ai pas de recette à vous proposer, j'ai juste une question à vous poser, pour que vous-même vous puissiez demander à Dieu comment vous pouvez être une bénédiction autour de vous. Ce n'est pas un commandement moral ou religieux, c'est un style de vie que je vous propose. On ne fait pas parce qu'on est obligé ou parce que le pasteur le dit. On le fait parce qu'il y a quelque chose qui résonne dans nos cœurs et qui vient de l'Esprit-Saint. J'aime beaucoup ce verset du livre des Proverbes. Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Je trouve que c'est sympa. Seigneur, on te prête. On te prête en donnant aux pauvres. Et encore une fois, les pauvres, ce n'est pas seulement ceux qui ont des besoins financiers. Je vais conclure avec ce psaume. On pourrait croire que ça n'a rien à voir, mais le psalmiste prie et dit « Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Oh, c'est un peu subjectif, hein. Ce que tu fais est magnifique et je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner, et pourtant, aucun n'avait encore commencé. » Je termine par ce texte biblique parce qu'il y a une intention de Dieu dans ces lignes. Dieu, le Père, souhaite ou a souhaité que... nous soyons à la vie pour déjà le rencontrer, vivre avec lui, mais aussi parce qu'il avait une destinée. Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est présent très fortement chez moi parce que quand j'avais 11 ans, ma maman m'a dit « j'ai avorté de l'enfant que je portais avant toi ». J'ai avorté l'enfant que je portais après toi, mais toi, je n'ai jamais réussi. Je suis quelque part conscient que Dieu a souhaité me prêter vie pour que je puisse être une bénédiction dans l'époque dans laquelle je suis né. Je ne suis pas juste né pour moi-même, je suis aussi né pour Dieu, et je suis né pour être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Dieu a une destinée pour toi. Il suffit, il veut pas juste que tu naisses et que tu marches et que tu saches pas pourquoi tu es là et que finalement la mort arrive sans avoir su. Dieu a une destinée et c'est à toi de voir avec lui, de te débrouiller avec lui, je veux dire, pour savoir quelle est ta destinée, à quoi il te destine. Comment tu peux être une bénédiction? Nous avons chacun, chacune, une destinée. Soyons des bénédictions en tant qu'individus et en tant que communauté. Amen. 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 Seigneur, nous venons vers toi et je te prie pour que ce, cet enseignement, cette exhortation soit là pour nous encourager à vivre intentionnellement le fait d'être une bénédiction sur le plan personnel et sur le plan communautaire. Que jamais l'égoïsme ne vienne nous enfermer pour que nous vivions pour nous-mêmes, mais à ton image, toi, Jésus, qui t'es donné, nous voulons suivre ton exemple sans forcément aller jusqu'à la croix, mais en tout cas, nous voulons nous donner pour les autres. Suivre ton exemple parce que nous sommes tes disciples. Non pas des religieux, mais tes disciples. Voulant vivre avec l'état d'esprit qui était le tien. Et dans ta grâce, donne-nous qu'il en soit ainsi. Amen. Nous avons donc la joie d'avoir avec nous Monsieur le Préfet. Juste avant de vous donner la parole, permettez-moi de dire aussi simplement que ça que j'apprécie votre démarche de venir nous rencontrer. Je trouve ça vraiment très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé votre vidéo qui parlait de la prévention routière. Je me suis dit, ah, mais tiens, ça, c'est un gars qui s'engage, quoi. Il s'engage sur une vidéo. Je ne sais pas si vous êtes sur TikTok, mais en tout cas, c'est vraiment très chouette. On ne se connaît pas, ou très peu, mais je vois bien que vous êtes quelqu'un qui est engagé et d'une manière concrète. Voilà, ce n'est pas juste des mots. Je vois bien que vous n'êtes pas quelqu'un qui est là pour se mettre en valeur lui-même. Monsieur le Préfet, j'ai prié pour vous. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et je ressentais dans mon temps de prière, je vous le dis aussi simplement que ça, je ressentais dans mon temps de prière comme une approbation de Dieu par rapport à vous, à qui vous êtes et à ce que vous faites. Non seulement du fait de votre investissement, mais plus encore pour la personne que vous êtes. Ayant parlé de suite d'être une bénédiction pour les autres, vous en êtes une illustration dans la société dans laquelle nous sommes. Permettez-moi d'avoir un clin d'œil d'humour, Monsieur Chopin. Le Seigneur fait de vous une symphonie. Un poème, on a entendu, mais une symphonie, ça marche aussi. Dans une société où l'harmonie a parfois de la difficulté et du mal à s'installer. Soyez assurés, en tout cas nous voulons vous assurer que nous sommes à vos côtés, au moins par la prière, mais pas que. Et en tant que pasteur, je me permets, voilà, mais pasteur ou pas pasteur, à la limite, le titre importe peu. Que Jésus vous bénisse. En tant que personne, Monsieur Chopin, et qui continue à bénir notre société à travers vos actions, Monsieur le Préfet. Je vous laisse la place.
Monsieur le pasteur, merci de ces mots, c'est un peu émouvant de parler après ces mots. Merci, bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous expliquer le pourquoi de ma présence en trois idées. Mais d'abord, merci de m'avoir invité, on en avait parlé le 23 novembre, rappelez, je vous avais dit que j'aimerais assister à une de vos célébrations. Et ma troisième idée, ça sera pour vous expliquer pourquoi je suis là personnellement. La première idée, qu'un représentant de l'État soit auprès de vous, c'est pour rappeler que la laïcité n'est pas l'ennemi des religions. La laïcité à la française, c'est tout le contraire. C'est de permettre à ce que toutes les religions dans notre pays puissent s'exprimer. Et donc, en tant que représentant de l'État, dans tous les postes où j'ai servi l'État, je suis venu, je suis venu chez les protestants. La semaine prochaine, j'irai pour la fête de Pourim pour les juifs. J'irai rompre le jeûne avec les musulmans. À Pâques, il est vraisemblable qu'on me verra du côté de la cathédrale. Voilà, pour bien montrer que le représentant de l'État est une aide pour les religions, parce que c'est comme ça qu'on doit vivre cette laïcité, et pas du tout un obstacle. Donc ça, c'était la première idée qui fait que j'ai le plaisir d'être avec vous ce matin. La deuxième idée, c'est que si on voit les préceptes de la République, notre République, en fait, ce sont des préceptes qui sont très proches, je vous l'ai déjà dit, monsieur le pasteur, de la religion. La République, non seulement elle n'est pas l'ennemi des religions, je vous l'ai dit, mais elle est très proche dans ses valeurs, si on la vit avec la foi républicaine. Je crois qu'au travers de vos propos, monsieur le pasteur, qui m'ont beaucoup touché, évidemment, vous avez senti cette foi républicaine qui m'anime et qui doit animer les Françaises et les Françaises, parce que la République, c'est ce qui fait aussi l'union entre nous tous, c'est le contrat que nous avons passé avec la nation qui nous accueille. Alors quand je lis fraternité, tout ce que j'ai entendu avant que je m'exprime, c'est cela. Mais la fraternité, c'est à la fois une valeur religieuse que la République, à un moment donné, a adoptée. Quand je lis liberté, aux devises de notre République, j'entends ce que vous avez dit ce matin. Quand je lis égalité, homme-femme, les droits de l'enfant, c'est la République, mais c'est aussi la religion. Donc vous voyez ce lien dont je vous parlais, la laïcité n'est pas l'ennemi des religions, notre République aussi, si on la vit, eh bien, on n'est pas très loin des valeurs que vous avez chantées tout à l'heure, avec cette joie en plus, et puis ces valeurs que vous portez. Dans l'exemple que vous avez donné, monsieur le pasteur, très bel exemple, la République a rattrapé la religion, ou la religion a permis à la République d'avancer, en créant cette loi dont vous avez parlé. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de séparation, et que quand on vit la République, quand on protège les droits des enfants, la République protège les droits des enfants, le droit des femmes. Eh bien, c'est aussi des valeurs qui peuvent se retrouver dans la religion, quelle qu'elle soit. La vôtre, et puis celle de nos amis juifs ou les musulmans. C'est aussi pour ça que je suis là ce matin, c'est-à-dire qu'en tant que représentant de l'État, en tant que représentant de la République, eh bien, je me retrouve, au travers de ma foi républicaine, je me retrouve dans votre foi, à vous. Et puis, la troisième raison de ma présence, monsieur le pasteur, mesdames et messieurs, c'est que vous l'avez dit, on vit dans un monde difficile, un monde cruel, un monde, et vous priez pour les autorités, je le sais, vous me l'avez dit, vous l'avez fait pour moi, je vous en remercie, un monde où dès que vous ouvrez le journal, vous écoutez la radio, ça ne donne pas le moral. Et venir dans un lieu comme ici, entendre parler d'espoir, de joie dans vos chants, de tolérance, qui sont aussi des valeurs de la République, mais qu'on n'entend plus. La tolérance, le respect, trouver un peu de sérénité pour les jeunes aussi, dans un monde qui est difficile, c'est important. C'est important pour le préfet, qui a des décisions difficiles à prendre, mais c'est aussi important pour Philippe Chopin, de trouver un instant de paix, un havre de paix, de réflexion, et où on ne pense pas qu'à soi, vous l'avez dit, mais où on pense aux autres, parce que la République, ce n'est pas penser qu'à soi, c'est penser aux autres aussi. C'est ça aussi les valeurs de la République. Encore une valeur où on se retrouve dans l'altruisme. Voilà pourquoi je suis venu partager ce moment avec vous, un moment qui est pour moi un moment particulier, comme toujours, un moment de sérénité, comme je vous l'ai dit, un peu en dehors du temps, en dehors des préoccupations qui nous attendent tous dehors, et qui fait du bien. Et puis, oserais-je dire, en remerciement des propos que vous avez tenus à mon égard, vous dire que, et ça sera mon mot de conclusion, c'est la conclusion de Philippe Chopin, mais elle pourrait être aussi du préfet Chopin, c'est de dire quand je suis parmi vous, quand je sors de parmi vous, j'ai l'impression, très égoïste, très prétentieuse, très présomptueuse, d'être un peu meilleur que quand je suis rentré. Je vous remercie.
Père, nous te remercions de ce que nous pouvons nous approcher de toi par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous désirons t'apporter notre pays dans la prière. Nous te remercions pour son histoire, ses singularités, pour les bonnes choses que notre pays véhicule dans le monde, comme le romantisme, ses parfums, sa culture, le goût du beau, les droits de l'homme, l'accueil de l'immigré, souvent persécuté dans son pays. Oui, là où notre société est polarisée sur ce qui est négatif, nous, disciples de Jésus, nous voulons te remercier pour ce qu'il y a de bon dans notre pays. Toutefois, nous te demandons ainsi aussi que tu agisses dans tous les domaines où nous avons tellement besoin de toi. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont sous neuroleptiques ou en proie au suicide ou prisonniers de leurs addictions. Accorde l'emploi à ceux qui le cherchent. Intervient auprès des plus fragiles. Nous te prions particulièrement pour la concorde, pour la paix au milieu de du communautarisme, mais aussi pour la jeunesse et les enseignants. Que notre pays retrouve la paix et l'enthousiasme remplaçant les peurs. Nous te prions pour ceux qui sont en responsabilité, le président, les ministres, députés, sénateurs, maires, préfets. Nous reconnaissons que leurs tâches ne sont pas faciles. Pour notre ville, plus précisément, et notre département, nous te prions pour Monsieur le Préfet, pour la présidente du département, le maire d'Angers et tous leurs collaborateurs. Accorde à chacun, comme le demandait jadis pour lui-même le roi Salomon, accorde la sagesse, la connaissance, le discernement nécessaire pour qu'il soit capable de conduire ce peuple. Seigneur, notre prière pourrait encore être très longue tant les besoins sont nombreux. Et pour conclure, nous te demandons de te révéler auprès de ceux qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite, comme tu désignais les habitants de Ninive. Père Céleste, bénis notre ville, notre pays, nous l'aimons. Bénis ses habitants, manifeste ta grâce et ta gloire au sein de notre pays, en métropole comme en territoire outre-mer. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te demandons. Amen.